venu à Fort Héraclius à l'Élysée.
Bonjour, c'est Fort Héraclius à l'Élysée sur Radio 103, sur 102.3 et Radio Plaisance sur 95.9 en Périgord noir. Nous recevons aujourd'hui Nikita, et oui, je ne te lâche plus.
Bonsoir.
Je t'ai sous la main, et voilà, c'est ça. Donc, pour revenir un peu, pour continuer ce qu'on disait il y a 15 jours, et pour voir justement la notion de travail dans la prostitution, si c'est un travail comme un autre ou pas, ou voilà, et d'autres choses.
Personne ne m'aime dans les yeux muets, c'est que la source elle ne dissipe pas. Les cons, les larbins, les salauds, sinistre bilan, chamboule après 15 ans. À faire le clown déguisé en blanc. Je me sens bien seul sur la terre soudainement, dans ce grand jardin.
C'était René Binamé avec l'album « Fais ce qu'il te plaît ». Pardon. Donc nous sommes toujours sur Radio 103 et nous avons toujours Sébastien et Nikita.
Bonsoir.
Et nous parlons toujours de prostitution.
Oui, voilà.
Et d'autres choses d'ailleurs.
Voilà. La grande question qui revient toujours, est-ce que c'est la prostitution est-elle un travail comme un autre?
Moi j'ai tendance à dire que c'est sûrement pas un travail comme un autre. Alors, évidemment, quand je dis ça tout de suite, mais si, mais non. D'abord parce qu'il faut beaucoup de qualités pour être prostituée.
Ah oui, mais ça remet pas du tout en cause les qualités. Hein.
Voilà.
Pas
et donc
du tout.
Finalement, ça a quand même un certain nombre de spécificités. Donc ce que j'ai plutôt tendance à dire, c'est que c'est un travail qui a un certain nombre de spécificités, finalement comme tout travail,
oui.
Hein, et qu'il faut le reconnaître en tant que tel. Alors c'est vrai qu'on nous oppose souvent, mais non, ça peut pas être un travail, c'est forcément une exploitation.
Voilà.
Mais bon...
Tout travail est exploitation.
Voilà, donc je pense que de ce côté-là... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait un livre, je me rappelle jamais le titre, il y a pas très longtemps, mais c'est effectivement qui démontre finalement que tout travail est une exploitation et plus une violence finalement que la prostitution.
Bon.
Donc je pense qu'il faut à nouveau pas confondre et pas tout mélanger. Il faut pas confondre, je dirais, l'exploitation, le profit que certains peuvent tirer du travail des autres, éventuellement le côté entre guillemets esclavagisme qu'il peut y avoir aussi hein, dans ce milieu-là,
patronale.
Qui sont liés finalement au fait que ce métier n'est pas reconnu en tant que tel. À partir du moment, et je reviens toujours sur ce leitmotiv, mais à partir du moment où on reconnaîtrait notre métier comme un travail à part entière, avec les droits qui vont avec, les devoirs qui vont avec, il est clair qu'on n'aura plus les problèmes de traite,
de macro, de réseau, etc.
Bon. Donc, alors, après, on va nous opposer, oui, mais regardez, en Allemagne, il y en a une l'autre jour qui s'est vue proposer à la NPE locale, finalement, elle ne trouvait pas de travail, donc on dit, allez travailler dans un bordel. Bon. Donc, je pense qu'effectivement, c'est là où il faut mettre un certain nombre de limites, et c'est là où je dis, tout le monde ne peut pas être pute.
Ah, c'est clair.
Alors, malheureusement, il n'y a pas encore d'école. Moi, c'est un de mes projets, d'ailleurs, de créer une école européenne de prostitution.
Oui,
tout simplement parce que, finalement, comme dans tout travail, dans tout métier,
il faut être formé.
Hein. Malheureusement, la plupart, on apprend ça sur le terrain. Éventuellement, il y en a une plus ancienne qui nous guide au début ou ce genre de choses. Mais je pense que ce serait pas idiot qu'il y ait effectivement des cours de psychologie. On passe beaucoup de temps dans notre métier à faire de la psychologie pour nos clients, c'est clair. Mais des cours de langue, faut savoir parler anglais, bien évidemment. Moi, je passe parfois des nuits à discuter avec un ministre de ses affaires. Il faut aussi avoir une culture générale qui tienne la route.
Hein? Oui.
Voilà. Donc, je pense qu'il peut y avoir aussi. J'aime pas parler d'évolution de carrière ou en tout cas.
Il n'y a pas
de raison, je dirais, de fermer la porte à une certaine évolution aussi de chacune par rapport à la façon dont on peut aborder ce métier
personnel,
et un enrichissement personnel. Bon. On n'est pas que des connes et que des vagins. Il ne faut pas caricaturer à nouveau. C'est quand même ce que nous disent les féministes. C'est-à-dire que soit on est tellement conne, de toute façon, on ne se rend même pas compte de la violence qu'on subit. Soit, je dirais, on utilise le discours de dire qu'on est fier, etc. Parce que finalement, c'est une sorte de syndrome de Stockholm, comme les victimes d'attentats. Machin, on s'en rend même pas compte, en fait.
Toute sa victimisation, donc.
Voilà. Hein. Donc, la reconnaissance de notre activité comme un travail en tant que tel nous permettrait aussi de travailler dans les conditions qui nous vont bien. Parce que souvent, le problème, c'est les conditions de travail. C'est pas
le travail en lui-même.
Je dirais, après tout, si on choisit ce métier, c'est qu'on y trouve un certain plaisir. Et comme je dis toujours, regardez les gens quand ils vont au boulot le matin, la tête qu'ils font. Et puis quand ils rentrent le soir. Bon. On ne peut pas parler vraiment d'épanouissement.
Non, mais c'est sûr, tu étais caissière. Je ne stigmatise pas les caissières, mais caissière à Monoprix, ce n'est pas non plus un truc qui peut être enrichissant non plus.
Ça dépend aussi. Finalement, l'avantage de notre activité, en tout cas de notre métier, c'est que on n'a pas de patron.
Et oui. Bon. Ça, c'est bien.
Donc ça, déjà, c'est quand même important. On n'a déjà pas le petit chef qui vient nous faire chier.
Ça, c'est bien.
On fait des pauses café quand on veut. Et on choisit aussi nos clients. Et on choisit ce qu'on fait avec eux. Hein, je pense que... Et là, je dirais, c'est ça dont il faut avoir confiance. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour offrir notre cul ou notre vagin ou je ne sais pas quoi, ou notre bouche. On est là pour proposer une prestation de service qu'on maîtrise totalement.
Voilà. C'est qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus avec vous. C'est-à-dire que, voilà.
Bah, sûrement pas.
Voilà,
sûrement
non,
pas.
Mais c'est ça qui est important aussi.
Et ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'effectivement, le rapport de domination, finalement, s'il existe, il est
plus
nous qui dominons et le client qui, finalement, pas forcément est soumis. Quand j'exerce en maîtresse dominatrice, c'est clair que c'est lui qui est soumis. Mais bon. mais même si c'est un rapport, je dirais, entre guillemets, classique. Sexe de base, on va dire. Faut les voir à l'entrée, je dirais, c'est nos petits clients, là. Je dis ça petit parce que, avec mes talons, ça fait 2 mètres. Hein.
Donc, c'est vrai, ils sont plus petits. Nikita est très grande.
Bon. Et ils sont à la fois intimidés. Il y en a toujours un qui me dit : mais t'as toujours pas du whisky ? Je dis : ben non, amène-en, quoi. Je veux dire, ça va pour le détendre. Ouais, oui. Bon, en même temps, je le détends très vite et ça va. Mais ils sont quand même relativement intimidés, surtout c'est la première fois qu'ils viennent nous voir.
Oui.
Donc, et on est très très loin du viandard
pervers,
etc. C'est tout sauf ça. Hein. Je pense qu'il faut vraiment avoir bien ça en tête. Donc, ce qui est important, c'est les conditions de travail dans lesquelles on peut exercer notre métier, notre activité. Et donc là, d'où l'importance également d'avoir ce droit Et cette reconnaissance, finalement, en termes de métier, qui nous permet à la fois qui nous permettrait, par exemple, de nous associer aussi. Actuellement, je sais plus si j'en ai parlé l'autre jour ou pas, mais on est 4 à travailler chez moi. Bon, on partage ça très bien, mais c'est complètement illégal aujourd'hui.
Puis un des avantages aussi, je pense que ce travail serait reconnu, ce serait justement, on pourrait faire une prévention au niveau de la clientèle, comment agir. Pour l'instant, c'est sur le site, il y a
lesputes.org.
Voilà, lesputes.org, il y a comment s'appelle
le fascicule à nos clients. Oui,
voilà. Ouais, tout à fait. Bah, on leur explique un petit peu les choses, et puis c'est bien aussi qu'on puisse faire de la prévention. On est souvent des actrices de prévention. Hein. J'ai plus que des vectrices de contamination.
Mais là,
parce que ça aussi, c'était l'objet d'un de nos tracts d'ailleurs. Ces dernières semaines, mais en particulier pour le 1er décembre, parce que c'était la journée mondiale de lutte contre le sida, où notre slogan, je dirais, notre banderole, c'était « Travail du sexe, première vectrice de prévention ». Parce que ces abolitionnistes nous considèrent encore comme des vectrices de pandémie. Enfin, je veux dire,
c'est hallucinant.
C'est complètement hallucinant. Bon. Mais c'est vrai que... je me rappelle une fois comme ça, j'étais allé à un forum attaque. Alors c'est à la fois baiser comme ça toute la journée, ça leur fait des choses bizarres, mais
c'est sacré
comprendre.
Le sexe.
Oui, c'est sûrement très sacré pour elles, et je pense que c'est visée reproductrice uniquement d'ailleurs en ce qui les concerne. Et je pense que c'est là le problème de base, c'est que effectivement qu'on puisse s'éclater en baisant quoi. Ça, alors là, elles ont du mal à comprendre quand même.
Ouais. Il y a ça aussi qu'il faut désacraliser un peu. Enfin, je sais pas moi quand t'es adolescente, je sais pas, mais tout le monde te dit à peu près, faut t'attendre le bon mec pour ta première fois, parce que machin, faut que tu sois amoureuse et tout. Mais t'as ça. Tu vois, alors quand t'arrives, que t'es au pieu et que ça, soit ça te plaît pas du tout, ou soit, et c'est justement quand tu te lâches, quand tu lâches tout ça et quand tu prends ce plaisir-là, que tu l'as vraiment et pas du tout quand tu sanctifies ce truc-là, quoi.
Ah bah ça c'est clair, mais je pense que là effectivement, et c'est peut-être là une grosse différence finalement entre la sexualité PD et hétéro, c'est que en tant que PD déjà très tôt. On a ce tabou, je dirais, et cette homophobie, je dirais, à mettre par terre. Donc on a déjà un premier regard sur la société et on met tout ça par terre, je dirais, très vite. Hein.
Ouais.
Bon, donc c'est là où peut-être notre sexualité est à la base plus facile, ou en tout cas plus débridée et moins coincée. D'une certaine manière. Alors une fois qu'on a passé ce tabou-là ou ce côté homophobie machin, bon, bah c'est vrai que passer au côté pute, finalement, c'est juste une petite étape en plus. C'est un stigmate de plus, mais à la limite, il est presque moins important d'une certaine manière. Bon, c'est vrai aussi que malgré tout. Quand tu dis à un mec avec qui t'as envie de sortir, voilà, super, t'as là, puis en plein milieu tu lâches que t'es pute. Comme disait Grilizier les 10 réals, t'as une sorte de masque qui arrive, et puis souvent le repas se termine. Bon, ou le repas ou autre chose. Hein. Mais bon.
Et chacun paye sa part après, c'est triste.
Oui, ou tu payes pour les deux. Bon, donc, mais pour revenir à cette notion de travail. C'est aussi ce qui nous permettrait d'avoir des droits.
Oui, tout simplement.
Et qui nous permettrait aussi de mieux se défendre par rapport aux violences dont on est victime quand même. C'est-à-dire que, même si c'est quelque chose que je répugne à dire, on a quand même des gens qui nous agressent.
Oui, bien
bon,
sûr.
Donc il faut être clair.
Voilà, plutôt aussi.
Alors déjà par la société dans son ensemble, hein, parce qu'il n'y a quand même pas pire insulte que le pute. Hein, bon, puis tout le monde l'utilise tout le temps. Hein.
Oui.
Et puis dans le sud-ouest, les putains, ça y va. Hein. Donc,
moi, je dis souvent putain, je suis désolée.
Ben ouais, mais alors, souvent, moi, je réponds, ben oui, sois pas putophobe. Mais c'est comme enculé, quoi. Sois pas passivophobe non plus. mais souvent, on entend ça. Et c'est bien, je pense, que de réagir. Comme ma sœur maintenant, elle a bien pris l'habitude de réagir quand quelqu'un utilise soit le mot enculé, soit pédé, soit pute,
oui,
machin, etc. Et finalement, à chaque fois, ça permet une petite discussion. Et ça permet, prends conscience un petit peu de ce que tu es en train de dire. Et du côté finalement stigmatisant que ça a pour les femmes en général, d'ailleurs. Hein, si on est quand même largement contre un mouvement comme Ni pute ni soumise, c'est bien parce qu'elles reproduisent ce stigmate.
Ouais.
Et moi, je suis pas une pute. Il y a des gens comme Barbara Wagner, femme séropositive à Marseille, et on n'est pas d'accord avec elle sur le, sur un truc simple, c'est que elle a osé quand même dire, mais attendez, moi je suis pas une pute, il y a aucune raison que je sois contaminé.
Wow.
C'est quand même un peu violent, ça.
Très violent, oui.
Bon. Donc, quand on se prend ça dans la gueule, c'est quand même vachement sympa. Hein. De toute façon, t'es séropo, bah, tu l'as bien cherché, t'as qu'à pas être pute. Hein. Après tout, tu l'as bien cherché. Bon. Alors, d'autant plus que c'est finalement, globalement chez les putes, on trouve le plus d'actrices de prévention quand même. Hein.
Oui, ça, c'est sûr.
C'est-à-dire qu'on impose quand même à nos clients le port du préservatif systématiquement. Bon, donc.
Comment ça s'est, justement, imposé ça, ça s'est fait tout seul ou.
Oh bah, ça s'est fait depuis longue date. C'est-à-dire qu'il y avait déjà la capote au départ, je dirais, pour éviter les grossesses, machin, les IST, enfin les MST à l'époque, parce que avant le VIH, on parlait d'MST. Mmh. Maintenant, on parle d'IST. Donc, incluant donc VIH et les hépatites, entre autres. Bon, donc depuis toujours finalement les putes utilisent des préservatifs. Hein, mais c'est vrai que bon, on est d'accord. Au départ, c'était plus par rapport au, au fait de pas être enceinte ou genre de choses. Bon, et on avait d'ailleurs fait une démonstration de safe sex aux universités d'été homosexuelles européennes à Marseille. Et il y en a un qui a dit mais non, moi avec une capote je bande pas, c'est pas possible. Bon, on dit, tu vas voir. Et puis après, il ne demandait plus. Hein.
Ah ouais.
Bon, donc effectivement, là, il y a aussi une question technique. Alors, on revient sur mon école, mais oui. Il y a aussi la partie technique sexe. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de nos clients qui disent ouais, c'est vrai que l'avantage avec vous, c'est quand même côté technique. C'est cool. Quoi.
Savoir-faire, ouais. Bah, savoir-faire. Ouais, vachement, ouais.
Donc, alors, c'est peut-être là où effectivement les féministes ont à nouveau un blocage.
Peut-être, je sais pas.
Après tout, si leur mari vient de nous voir, c'est peut-être que ils ont parce qu'ils veulent à la maison, j'en sais rien. Mais bon, donc la reconnaissance de notre métier quand même apporterait beaucoup de choses. En tout cas, à la base, au moins, des conditions de travail qui puissent être choisies librement, et qu'on fasse enfin, qu'on exerce notre métier comme on souhaite exercer. Quoi.
Mmh. Ouais, et puis que ce soit en plus, comme tu disais, ça reconnu par la société, ça fait une
déstigmatisation.
Merci, mon amour.
Voilà.
Exactement. Je vomis vos jérémiades molles et votre ignoble sensiblerie. Je vomis la torpeur lisible dans vos âmes formatées. Je vous vomis car vous n'êtes que lâcheté camaraderie. Je vous vomis tous du haut de mes ventes emblasées. Je veux pouvoir aller venir dans vos chairs putrides. Je veux pouvoir les molester que vous ressentiez le mal. Exactement. Je suis succubé.
Donc nous sommes sur Radio 103, sur 102.3 et Radio Plaisance sur 95.9 en Périgord noir. Nous venons d'entendre Les Vieilles Salopes avec l'album Jamais Debout. Donc, corps est à moi.
Oui, mon corps m'appartient et le choix me revient. Hein. C'est où, quand, comment, combien je prends. Mon corps m'appartient, le choix me revient. Je pense que c'est assez clair. Mais c'est vrai qu'on nous objecte souvent, finalement, que le corps n'est pas une marchandise.
Voilà.
Hein, je crois que ça, c'est quand même un des grands thèmes. Mais mon corps, effectivement, j'en fais ce que je veux. Mmh. Hein, et je suis pas la seule d'ailleurs.
Mais c'est quoi qu'ils appellent corps? C'est ça qui est la grande question. Parce que les mains, ton cerveau.
Ben voilà. Donc on peut déjà commencer par dire que finalement, dans chaque activité, dans chaque métier, dans chaque profession, y a quand même beaucoup de gens qui utilisent leur corps pour travailler. Ne serait-ce que pour déjà se rendre à leur lieu de travail et poser son cul dans le RER. C'est déjà utiliser son corps.
Là, on fera la prochaine émission sur le handicap, mais là, c'est autre chose.
Voilà. Bon. Donc. Moi j'ai tendance à dire qu'un danseur utilise son corps aussi pour travailler, un dentiste, un avocat, une caissière comme tu disais tout à l'heure, un menuisier, etc. etc. Je pense que tout le monde utilise à peu près son corps d'une manière ou d'une autre pour travailler, ne serait-ce que pour faire une émission de radio par exemple. Bon, dans mon corps je mets aussi mon cerveau, c'est-à-dire que faut pas oublier non plus que c'est pas que des parties génitales, des seins ou je sais pas, bon, tout ce qu'on veut. Le cerveau compte beaucoup. Bon. Mais en même temps, on peut dire aussi, oui mais attendez, vous demandez de l'argent pour un service sexuel. Donc quand on parle de marchandisation des corps, c'est souvent ça qu'on nous objecte, c'est-à-dire que finalement c'est le côté échange d'argent pour une relation sexuelle. Donc c'est-à-dire qu'on met la relation sexuelle au-dessus de tout.
C'est sacré.
Hein, c'est pour faire des enfants. Ouais, bon, moi en général c'est assez rigolo d'ailleurs dans les débats où on a ce genre de remarques, c'est souvent des profs qui nous font cette remarque, le corps n'est pas une marchandise. Et en général, je leur réponds, mais le savoir non plus, cher monsieur, chère madame, oui. Le savoir n'est pas une marchandise. Et vous faites payer pour enseigner. Oui. Donc là, ça met un blanc.
Par l'État, en plus, souvent.
Alors, l'État ou pas, mais oui. Bon, voilà. Donc, je pense que, effectivement, je dirais, on est tous à vouloir un monde sans argent, machin, etc. Oui. Quand la révolution sera faite, on aura plein, on verra bien. Alors, mais pour l'instant, elle n'est pas faite. Hein,
d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on prenne rendez-vous là pour la faire, parce que ça commence à bien faire maintenant. Hein, le temps est long là.
Je disais pas le matin, j'ai du mal, moi. L'après-midi. Hein.
Voilà, donc ne la faisons que l'après-midi, mais bon.
Après les vacances.
Donc, de quel droit, je dirais, on m'interdirait de faire un métier que j'ai choisi?
Oui.
Hein, mais de quel droit?
Non, oui, voilà, c'est ça. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que justement le sexe est aussi tabou et aussi, mais même dans des milieux justement assez libres et.
Soi-disant libre de penser, parce que finalement, moi je trouve qu'à chaque fois, on revient quand même sur ces histoires de religion d'une manière ou d'une autre.
Ouais. De conditionnement.
Hein, et c'est un conditionnement social, si on ne veut pas parler de religion, mais on en est bien là quand même. Hein. Et tant que les gens accepteront pas de regarder réellement les choses en face, il y aura toujours ce blocage. Hein, je crois que, bon, alors c'est vrai qu'aussi des émissions comme on fait aujourd'hui peuvent permettre d'ouvrir un peu le débat et permettre à chacun de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que je baise avec ma femme ou mon mec quel est le plaisir que j'y prends? Est-ce que c'est uniquement pour faire des enfants ou est-ce que c'est vraiment pour m'éclater?
Oui.
Non mais voilà.
Bonne question.
Ouais. Mais nous, on n'est pas payé.
Elle est gratuite, hein, vous faites ce que vous voulez, chérie. Mais c'est à nouveau Griselidis Real qui disait « Ah mais celle-là, elle se fait tous les mecs, etc. » Mais si elle les faisait payer, peut-être qu'elle en aurait moins. Bon, donc c'est peut-être ça aussi qu'on nous reproche. Il peut y avoir une sorte de jalousie, je sais pas. Est-ce que finalement, dans l'inconscient collectif, le fait d'offrir du plaisir contre de l'argent renvoie pas à cette sorte de jalousie ou d'envie ou bon, je sais pas bien. Moi, je suis pas sociologue ou psychologue ou machin, etc. J'en ai rien à foutre.
L'apparence, justement, gagne de l'argent en se faisant plaisir, c'est alors qu'il y en a Voilà,
c'est sûr ça, que là. Gagner de l'argent en se faisant plaisir, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Moi, j'avais toujours rêvé de travailler dans mon lit, mais j'ai réussi. et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, finalement. Hein. Et je pense qu'il faut surtout revenir à chaque fois et toujours bien avoir en tête que on met les limites qu'on veut.
Oui.
Hein, j'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quel service, c'est pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Hein. On parlait d'IST tout à l'heure, de VIH/SIDA ou d'hépatite ou autre. Il n'est pas question d'accepter une relation sans préservatif sous prétexte qu'on va être payé plus.
Voilà, oui. Bon,
alors, c'est vrai que une des difficultés avec la LSI, on l'a déjà abordé l'autre jour, mais c'est qu'effectivement, c'est une fille qui en arrive à faire des pipes à 10 euros, quelle est sa capacité réelle de dire non à quelqu'un qui va lui offrir 50 ou 100 euros pour faire une pipe sans préservatif ou baiser sans capote, hein. Donc ça, c'est un des problèmes de la violence, je dirais, qui est faite par l'état policier de Sarkozy, hein. C'est-à-dire finalement, là, on a une possibilité de contamination beaucoup plus importante. Au passage, je tiens quand même à dire que faut pas oublier que la contamination, ça peut être dans les deux sens. Hein.
Oui, ça peut être le client aussi.
Pas oublier. Et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs pas trop d'accord avec les réglementarismes à l'allemande où finalement on impose au travers du sexe des contrôles systématiques, réguliers, dépistage, machin, etc. Mais l'inconvénient de ça, c'est que finalement, sachant que les travailleurs du sexe sont a priori clean, comme ils disent, c'est un mot dont j'ai horreur, mais bon, on utilise leur langage, les clients vont avoir tendance à dire on peut baiser sans capote, sans problème.
Ouais.
On oublie juste que le client peut être lui aussi contaminé, et ça ne faudrait pas l'oublier quand même. Mmh. Bon. D'ailleurs, j'avais apprécié, c'était je crois que dans une région nord, c'était sur l'île ou Dunkerque, je ne sais plus, où il y avait toute une campagne de prévention faite à l'attention des clients. Finalement, c'est quand même pas plus mal aussi de les sensibiliser. Au-delà de ce qu'on peut faire, nous, tous les jours, sur le terrain. Bon, donc pour revenir à la marchandisation des corps, je pense que la limite, elle est réellement, à partir du moment où moi, j'agis en connaissance de cause et je fais ce que je veux, je vois vraiment pas pourquoi on m'empêcherait de le faire, tout simplement. Je voudrais pas non plus donner l'impression qu'on se préoccupe pas des cas où il peut y avoir effectivement exploitation, etc. Hein, mais je tiens bien à préciser que c'est là aussi où les conditions de travail et la reconnaissance finalement de notre activité comme un métier nous permettront de lutter contre ces formes d'exploitation. C'est-à-dire que nous permettront de se syndiquer. Hein, après tout, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de se syndiquer et d'avoir un syndicat qui nous permette de défendre nos droits contre toute exploitation?
Non, mais là, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que ce qu'on a vu, de façon, on a vu que ce soit les abolitionnistes ou
la prohibitionniste.
Ouais. De toute façon, on le sait, ça n'arrête pas la prostitution.
Ah bah, je crois que là, faut être clair. Je pense que c'est un métier qui ne s'arrêtera jamais.
Non. Mais
bon,
parce que puisqu'il y aura toujours des personnes qui seront, par exemple, en manque de sexe,
ou pas forcément.
Pas forcément, mais je veux dire, il y aura toujours, chaque personne différente, il y aura toujours des personnes qui auront besoin d'aller voir quelqu'un pour. Je pense que la prostitution existera toujours.
Je dirais qu'il y a quand même pas mal de motivation finalement pour aller acheter des services sexuels. Je veux pas non plus faire de généralité, mais on peut quand même globalement dire qu'effectivement il y a le côté aller chercher une relation sexuelle parce que je suis trop timide ou je sais pas quoi. Ça peut être aussi aller réaliser des fantasmes que je réaliserais pas avec mon partenaire habituel. Ça peut être tout ce qu'on veut finalement. À la limite, je m'en fiche complètement.
Oui, ouais.
Ce que je constate souvent, c'est que c'est vrai quand même globalement envie d'aller chercher aller réaliser des fantasmes. Je sais pas, moi c'est peut-être quand même beaucoup plus ça qu'autre chose. Hein, mmh. En tout cas, c'est toujours l'envie de s'éclater. Hein, j'insiste là-dessus, mais donc faut croire que manifestement, quelque part, la société autorise pas les gens.
Mais non, mais faut pas. T'es dingue, toi.
Bah oui, finalement. Mais
faut pas s'éclater, surtout pas là-dessus. Bah voilà. Attends. Ouais.
T'imagines, c'est pas encore si on commence assez taxé, à prendre son pied tout le temps.
Il y a un poncif aussi, il y aurait moins de viols s'il n'y avait pas de prostituées.
Ouais, alors là.
J'ai dit avant.
Un poncif. Non, mais là, alors peut-être, j'en sais rien. En tout cas, c'est sûrement pas un argumentaire que je veux utiliser, ouais. Ça c'est sûr.
Ce que pense, ce qu'on parlait la dernière fois, justement, les armées, quand ils ramènent les prostituées pour soulager leurs soldats.
Oui, et puis je sais plus où ça a été fait, ça, pour
Vietnam,
Ouais, non, mais aussi un truc pour dans un foyer d'handicapé, ou je sais plus.
Oh, c'est en Hollande.
C'est en Hollande, hein, c'est ça. Ouais.
C'est des anciennes infirmières.
Volontaires.
Qui s'occupent, justement, mais souvent ce n'est que des massages, mais qui font aussi l'amour, parfois, pas tout le temps non plus, et qui s'occupent de ça. Et ça choque aussi beaucoup certaines féministes aussi que j'ai pu rencontrer.
Parce que c'est remboursé par.
C'est remboursé par la sécu.
Moi, je pense qu'on devrait. Notre activité devrait être remboursée par la sécu. <c'est clair. rire>
Ouais. Alors, justement, le rôle psychologue aussi que vous pouvez avoir et tout, je ne sais pas. Quoi,
oui,
c'est assez.
Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de passer le temps escompté, j'irais, à purement parler. Ou simplement le rassurer sur ses capacités ou genre de choses. C'est-à-dire que... Mais là, à nouveau, on retombe sur des blocages sociaux, globalement.
Oui.
Hein, qu'est-ce qui fait que telle personne, il a une petite bite, il a une grosse bite, machin, etc. Mais c'est vrai. J'ai un client qui me disait ce qui est bien avec vous, c'est que vous n'émettez jamais de jugement.
Oui.
Oui. Finalement, on n'a pas d'a priori de est-ce que je vais être performant, pas performant, machin, etc.
Il n'y
a pas ce truc-là. Mmh. Et je pense qu'il y a donc du coup une sorte de déculpabilisation, ou en tout cas...
Culte de la performance.
S'il est performant ou pas, on s'en fiche. Hein. L'essentiel, c'est que lui prenne du plaisir. Bon, à la limite, nous, on n'en prend pas, c'est pas très important. Hein,
ouais, c'est la séparation entre sexe et la notion de plaisir.
Non, enfin, je dirais, c'est pas la séparation entre sexe et plaisir, c'est que il doit y avoir plaisir.
Voilà. Bon,
en tout cas pour lui, pour elle, si c'est elle la cliente. Mais je pense que effectivement, là aussi, par rapport aux féministes abolitionnistes, parce que on n'a pas non plus,
il y a toujours
toute
forme de féminisme.
Hein. Je pense qu'il est le truc, c'est effectivement, elles ont du mal à dissocier la notion de plaisir et la notion d'amour. Hein, en tout cas, le plaisir sexuel et d'amour. Ce que tu disais tout à l'heure, Alexia, par rapport au fait qu'on attend l'élu,
le prince charmant, le messie de l'orgasme.
Etc., etc. bon, il y en a qui l'attendent toute leur vie, remarque. Mais ouais, je pense que c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas amoureux de nos clients. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'elles ont du mal à appréhender, ces abos cato qui nous cassent le clito. Mais ouais, je pense que et c'est aussi quelque chose qu'elles nous reprochent d'ailleurs, c'est-à-dire que elles disent ouais, mais vous trouvez comme excuse que c'est pas l'amour, c'est du sexe, etc., etc. C'est
oui, bidon, mais pourquoi est-ce qu'il faut forcément de l'amour dans le sexe?
Ben non, y a pas besoin.
Ben voilà, non, mais c'est
besoin.
Ça la question, je veux dire. C'est,
ça peut être une performance purement technique. Hein.
Oui, purement mécanique.
Mais comme je dis, une féministe qui nous en voulait beaucoup, mais attendez, mais vous parlez de quoi? Vous y connaissez quoi en sexe, vous? Non, mais quand vous en serez à baiser 10 ou 15 fois par jour, on en reparlera.
Ouais.
C'est-à-dire, venez faire notre métier pendant une semaine, et puis après on verra.
Ouais, mais la moyenne des Français, c'est 8 fois par mois ou 4 fois par mois, je crois.
Je sais pas, hein, la moyenne, bon, mais qu'elles viennent voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain, concrètement.
Ouais.
Hein,
bah oui, mais
elles parlent de choses qu'elles connaissent pas.
Mais elles veulent pas le connaître.
Elles s'imaginent, elles ont un fantasme sur la prostitution, hein, je pense que c'est clairement ça. Elles s'imaginent plein de choses, et en mélangeant plein de choses aussi. C'est vrai que ça explique aussi peut-être pourquoi on n'arrive pas bien à avancer avec elle, pourquoi elle fuit les débats avec nous.
Courage.
Malka Markovitch, qui est la présidente du 4W, donc le Coalition Against Trafficking Women, et du mouvement d'abolition de la pornographie et de la prostitution. Alors, outre le fait qu'elle défende son salariat par cette croisade, elle nous fuit systématiquement et elle refuse les discussions. Moi, on a été invité plusieurs fois pour faire des émissions de télé, radio. Elle a toujours refusé de participer. En tout cas, si j'étais là, en tout cas, elle refusait que l'émission se fasse. Bon. Donc on se demande pourquoi elle a peur de moi comme ça.
Tu es très impressionnante.
Mais c'est vrai que je suis très impressionnante.
Arrête. Voilà. Hein?
Non mais, je veux dire, il doit y avoir quelque chose qu'elle ne maîtrise pas bien dans le sujet.
Ouais,
hein?
je pense.
Je ne l'ai jamais vu au Bois de Boulogne. Je ne l'ai jamais vu venir discuter avec nous sur le terrain et partager les expériences. C'est vrai que si elle venait un peu plus souvent sur le terrain, peut-être qu'elle ne dirait pas autant de conneries.
Mais non. On va mettre la pause musicale.
Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 20 ans, je suis en première année d'histoire de l'art et je vais en cours et je fume pas non plus.
Bonjour, je m'appelle Renato, je suis coiffeur et je suis pas homosexuel.
Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 21 ans, je suis blonde, j'ai des gros seins mais je fais pas de porno. Enfin pas encore parce que pour l'instant j'ai fait des trucs soft.
Bonjour, je m'appelle Jésus, j'ai réussi, je suis assez connu, mais bon, je suis un fils à papa.
Bonjour, je m'appelle Dominique Strauss-Kahn et je suis de gauche.
Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'ai 32 ans et je supporte pas les magazines féminins qui proposent des horoscopes, c'est vraiment n'importe quoi. La dernière fois, ils m'ont conseillé un tailleur gris alors que ça me boudine, pourtant jusque-là, je...
On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non. Tous ceux qui sont pas d'accord, et ben c'est des gros cons. Et moi, les gros cons, je les reconnais tout de suite au premier coup d'œil. On voit celui qui mérite, toi ça va, toi moyen. Toi pas top, toi pas glop, toi rapproche-toi, je suis myope.
Oh, bonjour, je m'appelle Mouloud, j'ai 17 ans, j'ai un scooter et je l'ai acheté à Pascal qui l'avait volé.
Bonjour, je m'appelle Alain Delon et je suis menuisier et avec le temps je m'améliore dans mon métier.
Bonjour, je m'appelle Steven Seagal et je travaille actuellement sur une adaptation de Brecht avec un metteur en scène moldave au TNP. Ça va s'appeler Kung Fu Master 2, ou les Runes de la Mort.
Bonjour, je m'appelle Salomon et depuis tout petit, j'aime pas les colonies.
Ah bonjour, je m'appelle Farid et quand je sors, je mets pas ma ceinture. Oh Salomon!
Ah Farid, ça fait plaisir de te voir, hein? Comment ça se fait que tu es là? Tu as fait le mur?
On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non. Tous ceux qui sont pas d'accord, et ben c'est des gros cons. Et moi les gros cons, je la connais tout de suite au premier coup d'œil. On voit celui qui mérite, toi ça va, toi moyen, oui, toi moi. Toi pas top, toi pas glop, toi rapproche-toi, je suis myope.
Bonjour, je m'appelle Ernest Antoine et je pense qu'il est important de moins se focaliser sur les revenus financiers et de prendre en considération les employés, car ce sont eux qui constituent l'essence de l'entreprise. Enfin non, je te code.
Bonjour, je m'appelle Jean-Claude, je suis gardien de la paix, ma femme est blonde et on s'est abonné au Monde Diplomatique et à Charlie Hebdo parce qu'on trouvait ça important d'avoir une indépendance vis-à-vis des médias. Et puis surtout qu'en s'abonnant aux deux, on gagne un porte-clés convertisseur euro et ma femme a toujours du mal. Hein.
Bonjour, je m'appelle Bobby, je suis américain, je suis capable de situer la Côte d'Ivoire sur une carte d'Europe.
On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non. Tous ceux qui sont pas d'accord, et ben c'est des gros cons. Et moi les gros cons, je la connais tout de suite au premier coup d'œil. On voit celui qui mérite, toi ça va, toi moyen, oui, toi moins. Toi pas top, toi pas grand, toi rapproche-toi, je suis mieux.
Bonjour, je m'appelle Vincent et c'est un peu déprimant, ville centre intignant.
C'est toujours Forêt Reclus à l'Elysée sur Radio 103 sur 102.3, FM et Radio Plaisance sur 95.9 en Périgord Noir. Donc, nous sommes toujours avec Nikita et avec Sébastien. Oui, donc là, je voyais sur votre livre que je n'ai pas encore lu, puisqu'il n'est pas encore sorti, mais que je l'ai précommandé.
Il va bientôt sortir. Oui.
Bientôt, au mois de mars, qui est à 7 euros. Et en plus, il y a moins 5% si on le commande tout de suite.
Alors, si on commande en pré-vente, voilà. Et l'avantage surtout, c'est à part les moins 5%, c'est surtout qu'on l'aura un mois à l'avance.
Oui, et en plus, il n'y a pas les frais de port.
Et il n'y a pas les frais de port, mais c'est merveilleux, ça je ne savais pas. C'est extraordinaire.
Donc, c'est très très bien. Et il y a la notion de genre aussi. J'ai vu en quatrième de couverture, alors c'est intéressant
aussi.
Oui,
parce que dans les attaques qu'on nous fait, je dirais souvent, on dit, bah oui, mais vous n'êtes pas représentatif, vous êtes des transpédéguines, bon. Alors, et puis les femmes qui sont dans le groupe, les putes, on leur dit, ben non, vous n'êtes pas des vraies femmes, donc...
bon. Alors, n'est vrai, alors.
C'est vrai que tout le monde est faux dans tout ça, de toute façon. Donc, ouais, c'est une grande problématique, mais qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme?
Ouais.
Hein, je crois que, bon déjà, les féministes en général, les abolitionnistes en tout cas, considèrent que les trans sont sûrement pas des femmes. Alors, je parle des trans MTF à ce moment-là, hein, parce que les trans FTM, donc MTF c'est male to female, mm-hmm. hein, et FTM c'est female to male. Bon, donc en français ça donne mâle vers femelle, enfin homme vers femme et femme vers homme. Hein. Donc, pour celles en tout cas qui ont fait une démarche, une transition homme vers femme, les abolitionnistes considèrent que ce n'est pas des femmes puisqu'elles ont une bite.
D'accord.
Alors c'est vrai que pour travailler, pour celles qui ne sont pas opérées, en tout cas, elles ont des seins et une bite. Bon, donc évidemment, ça ne peut pas être des vraies femmes. Donc forcément, elles ne peuvent pas être représentatives et parler au nom des femmes, puisque de toute façon... Alors, voilà. Et puis dans l'autre sens, celles qui ont fait une transition femme vers homme, elles ont éventuellement un vagin, elles ont plus de seins. Alors, c'est des hommes ou pas? Puisqu'elles n'ont pas forcément de bite.
Ben oui.
Hein, bon, alors, c'est quoi toutes ces définitions? C'est un peu mélangé. Et je pense que on pourrait revenir tout simplement à une certaine Simone de Beauvoir, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas? On parlait de construction et on n'est pas femme, on le devient, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'elles ont oublié ou est-ce qu'elles n'ont pas voulu retenir ou est-ce qu'elles n'ont pas compris?
Ou elles n'ont pas lu, tout
simplement.
Compris.
Peut-être. Bon. Donc, je pense que, effectivement, alors, c'est assez marrant d'ailleurs parce que dans le. Je suis projeté sur la première page du site. D'ailleurs, on a marqué qu'on était un groupe non mixte, oui. Composé de femmes et transpédéguines. Oui. Alors souvent, les gens disent mais non mixte, et ils lisent pas la suite. Non mixte, ça veut dire qu'on est que des prostituées dans le groupe.
Oui. Ouais.
D'accord. Bon, mais moi, est-ce que je suis pas simplement une femme déguisée en homme?
Mais oui.
Finalement, qu'est-ce qui fait que je suis une femme, que je suis
et
un homme?
Et moi, si ça se trouve, je suis un
voilà.
mec. Hein.
Exactement. Ouais. Donc je pense que...
T'as vu comment je parle et tout, t'as
ouais, en plus, hein, franchement...
J'ai un vocabulaire de mec et tout, je voilà. fume, je bois, non mais c'est horrible. Hein.
Alors moi, je considère que je suis une trave butch. Donc au bout du compte, finalement, quand je baise avec un de mes amants qui est FTM... J'ai l'impression d'être lesbienne, mais lui a l'impression d'être pédé. Donc, après tout, finalement, c'était quel genre tout ça? Donc, supprimons la notion de genre. Oui. Tout le monde sera beaucoup plus à l'aise. Et puis, on aura quand même, effectivement, là aussi, on peut parler des trans de minutes, qui ont un problème fondamental, je dirais, avec la loi française. C'est-à-dire qu'il leur faut des années avant d'obtenir un changement d'identité et un changement de papier. Donc, elles se retrouvent avec une apparence. Puisque c'est le terme des psychologues féminines, mais avec des papiers de mecs. Mmh. Donc effectivement, là on a globalement, je dirais, un sujet non négligeable, c'est-à-dire que comment elles font pour trouver du travail.
Et puis le regard aussi de la société.
Avec le, oui, voilà, et puis allez à votre banque, chercher votre carte bleue, et puis quand on vous demande, non mais c'est monsieur que je voudrais voir, ou c'est madame que je voudrais voir, non mais bah, c'est moi. Bon, etc., etc.
Et psychologiquement donc, aussi, ce que ça peut...
Bien sûr.
Et que justement, les psys essaient de guérir.
Ah oui, bah, de toute façon, être trans, déjà, en France, c'est encore considéré comme une maladie mentale. Donc c'est effectivement pour ça qu'on demande la dépsychiatrisation des trans immédiatement. Mmh. Ouais, je dirais quand même, faut arrêter les conneries, là. Bon. Mais au-delà de ça, on demande aussi qu'elles puissent avoir des papiers qui correspondent à leur genre revendiqué.
Voilà. Hein.
Alors, effectivement, on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire supprimer la notion de genre dans les papiers, et à commencer par le numéro de sécurité sociale.
Le 2 et le 1.
Voilà, hein. Soit on met le 3, soit on n'en met plus. Mais je veux dire, après tout, c'est quand même extrêmement stigmatisant aussi. Mais on constate quand même que beaucoup de trans sont travis du sexe, et là, pas forcément par choix, par contre. Hein, elles sont contraintes par une pression sociale et pour des raisons économiques. Ah bah de toute façon, qui ne travaille pas pour des raisons économiques, hein. Alors là,
oui, non, alors,
ça fait partie effectivement des grands trucs des abolitionnistes aussi. Ah mais forcément, vous êtes contraint pour des raisons économiques à vous prostituer.
Tout le monde travaille pour.
Toi, tu travailles pourquoi?
Oui, c'est pareil.
On se demande.
Si t'avais le choix, je sais pas si tu continuerais à bosser. Hein. Si tu gagnes l'auto demain, je sais pas si tu continuerais à bosser.
Je joue déjà. Je pense que je continue.
Mais
moi, je suis un peu un cas particulier parce que moi j'ai commencé à me prostituer à 15 ans, donc effectivement, ça m'a permis d'abord de faire beaucoup d'argent de poche quand j'étais gamin et ça, c'était cool. Mais
ça t'est arrivé comment?
Ah, bah c'est simple, moi j'avais dragué dans les parcs et puis j'étais à Tours à l'époque. Et puis un jour, il y en a un qui voulait m'user avec moi, et puis moi, j'avais pas trop envie, il me plaisait pas vraiment d'ailleurs, mais il m'a proposé 500 balles, ben j'ai dit oui. Hein. Ouais. Moi je lui ai tourné le dos, il a fait sa petite affaire. Honnêtement, je n'ai pas senti grand chose. Et par contre, je l'ai retrouvé avec un billet de 500 balles. Et je me suis dit, waouh, ça c'est cool. Hein. On était en 75. Donc, c'est effectivement, c'était beaucoup d'argent. Hein.
Ouais.
Beaucoup d'argent.
Ah oui, ça c'est sûr.
C'est clair. Donc, ça c'est assez cool. Et puis finalement, quand t'aimes baiser, après tout, quelqu'un te propose de l'argent, tu prends. Hein. J'ai pas vu de problème fondamental là-dessus. Hein.
Tout à fait.
Alors peut-être j'ai été trop conne, hein, je sais pas.
Non,
et puis après j'ai quand même fait des études puisque je suis aussi ingénieur en électronique, en informatique, puis j'ai un MBA aussi au passage, et puis j'étais PDG de société de conseil en management. Et donc
c'est quoi
évidemment,
ce boulot conseiller en management.
Et voilà. Donc finalement, non, je pense que je continuerai toujours à être pute en fait. C'est-à-dire que un jour je me suis dit, bon non, faut que j'arrête ce métier-là parce que de conseil en management. Je préfère mes clients sous ma cravache que dans un bureau. C'est beaucoup plus drôle. Mais donc non, les raisons économiques, non, mais faut arrêter de délirer, quoi. Le jour où effectivement on n'aura plus d'argent, il y aura plus d'argent et on parlera plus d'argent, etc. Bah, peut-être qu'on travaillera plus, j'en sais rien. Mais ça m'étonnerait, il y aura autre chose.
Il y aura du troc,
il y aura autre chose. Mais c'est vrai qu'on avait imaginé d'avoir une principauté de prostituées. Sur un peu le genre la principauté de Monaco, où finalement tu rentres, il n'y a plus d'échange d'argent à l'intérieur.
Hein,
c'est-à-dire que tu rentres, tu payes une somme au départ, hein, et puis après, bah, tu vas exercer, tu vas baiser avec qui tu as envie, enfin, qui veut bien aussi baiser avec toi, en fait, mais il n'y a plus d'échange d'argent à l'intérieur, pourquoi pas. Ça pourrait être assez rigolo de tenter l'expérience. Mais ça sera un bordel géant, ça pas mal en fait. Voilà. Mais bon. Non, je crois que tous leurs arguments, je dirais, à tous ces abolitionnistes, c'est vraiment. J'allais dire d'arrière-garde, mais malheureusement, je dirais, beaucoup de gens pensent que. Par manque de connaissances, finalement, hein,
le grand public
pense que elles disent vrai. Et c'est vrai qu'elles ont une audience médiatique non négligeable, parce que c'est
bien,
toutes les commissions femmes des partis qui sont des partis de gauche en général d'ailleurs, qui sont venus au pouvoir en 80 avec Mitterrand, qui ont pris des places non négligeables, hein, en tout cas d'influence, qui ont accès à la télévision, aux médias en général.
Le discours va bien avec ce que vous entendez la télévision.
Puis, voilà, je dirais, elles font un peu le rapprochement entre l'abolitionnisme de la prostitution et l'abolitionnisme de l'esclavage.
Du coup,
forcément, ce sont des bonnes dames patronesses. Hein, c'est toujours cette idée de bonne dame patronesse d'aller chercher les brebis égarées et de la ramener dans le droit chemin. Mais c'est quoi ce droit chemin, quoi?
Est-ce que c'est des brebis ou des moutons, déjà?
Non, c'est une bonne
question. Est-ce que vous êtes des moutons? Ben non, justement.
Voilà. Hein. Et où est notre berger?
Ah, le bâton, tu parles, non, ah, non.
Ah, non. Non, on le porte sur nous, ah pardon, c'est ça. Là, ça doit devenir...
Bon. Non, j'arrête, voilà. Je déconne.
Bon, donc, je crois que tout ça, c'est vraiment un petit peu dommage, finalement, qu'elle soit bornée à ce point-là. Parce que nous, on aimerait bien pouvoir discuter avec elle comme on le fait là actuellement, par exemple, de manière très simple, ne serait-ce que pour leur faire comprendre. Alors après, ils nous disent qu'on n'est pas représentative, hein, puisque on est un groupe activiste. Donc effectivement, dans la SOS, on est quoi, une vingtaine. On n'a pas vocation non plus à être 3000. Hein. Et c'est vrai que pour aller faire des actions de désobéissance civile, il ne faut pas qu'on soit trop nombreuses non plus, parce que sinon ça va être ingérable. Donc c'est facile de nous dire qu'on n'est pas représentatif. Sauf que finalement, quand on va discuter, et c'est assez intéressant d'ailleurs, quand on avait préparé la Pute Pride, la première édition, au mois de mars 2006, les journalistes étaient venus avec nous, les caméras de télévision, tout ça. Et ils étaient interviewés les gens dans les putes dans la rue. Et la plupart disaient la même chose que nous.
Ouais.
Hein? Alors, celle qui ne voulait pas parler, c'était celle qui était effectivement, en général, avec un proxénète ou un Mac. Et donc là, évidemment, c'est clair qu'elles ne peuvent pas parler ou s'exprimer. Mais elles n'étaient pas si nombreuses que ça, d'ailleurs, dans la rue. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être aussi se rendre compte qu'il y a quand même aussi encore des bordels clandestins à Paris. Je ne sais pas trop en province, mais vraisemblablement. Et que le fait de nous chasser de la rue ne fait que
alimenter
ces réseaux clandestins. Hein, ouais.
Mais justement, est-ce que en province aussi, ça ne serait pas plus simple justement d'être prostituée libre par rapport à Paris?
Plus simple, je ne sais pas.
Je ne sais pas, non, mais je te demande.
Moi, je pense que...
Je sais pas parce
est-ce que les réseaux sont plus implantés, justement, à Paris?
Il y a déjà une grande différence, c'est qu'en province, les villes sont plus petites. Tu prends une ville comme Périgueux, c'est tout le monde se connaît, donc t'as...
Oui, non, mais je sais bien, mais...
C'est... Alors qu'à Paris, c'est plus...
T'as l'avantage de l'anonyme, d'une certaine manière. Voilà. C'est vrai que c'est plus facile d'être anonyme à Paris qu'à Périgueux, vraisemblablement. Ouais. Et c'est vrai que le stigmate est sûrement plus lourd à porter à Périgueux qu'à Paris. Hein.
Puis après, c'est une question d'acceptation, c'est une question de personne, après. C'est...
Mais moi, j'ai hâte que tout le monde puisse dire qu'elle est travailleuse du sexe,
et
fière de l'être, tout simplement.
Oui, bien sûr. Hein? Est-ce qu'il y a des associations qui vous êtes sur le terrain, qui, au niveau de la prévention?
Alors bon, nous on travaille avec plusieurs associations. Donc il y a sur Lyon Cabiria, sur Toulouse Chrysalidis, qui sont deux associations fortes, je dirais, sur ces deux villes. Sur Paris, il y a le PAST, donc c'est Prévention Action Santé Travail Transgenre, donc qui fait un gros travail, je dirais, de prévention et d'accueil pour les trans, et en particulier, je dirais, globalement, celles qui sont au Bois de Boulogne. On travaille avec une autre association qui s'appelle Femmes de droit, droit des femmes. Donc là, c'est plutôt les filles qui travaillent sur Vincennes. Et puis également le bus des femmes, qui a un bus de prévention, effectivement, qui sillonne un peu les différents lieux de prostitution. Bon, avec la nouvelle directrice, on a de meilleurs rapports. Elle est quand même un peu plus objective et un peu moins braquée que les précédentes. Bon, après, il y a d'autres associations. Bon, il y a Aide qui fait encore un travail de terrain. Mais bon, comme ils tirent à chaque fois que les flics viennent, ça va pas très loin. Ils ont un travail d'accueil qui est pas mal. Mais alors là où par contre il y en a qui nous plaisent pas vraiment, c'est ces associations finalement abolitionnistes catho, du style le Mouvement du Nid. Il y a même globalement un comité national de coordination des associations abolitionnistes. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Bon, leur moyenne d'âge, c'est à peu près 70 ans. Hein. Oui, donc, c'est là où il faut. Non, mais on peut se rendre compte aussi, je dirais, de qui sont ces gens-là. Hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur la même planète, en fait.
Ça va être les mêmes qu'on doit avoir pour les anti-IVG.
Oui, on n'est pas loin. Hein. Ils veulent interdire la pornographie aussi. Hein, donc, bon. Donc là, ces gens-là sont finalement quand même les plus dangereux, parce que c'est grâce à eux que Sarkozy a pu faire passer sa loi.
Oui.
Hein? Parce que finalement, c'est en s'appuyant sur des associations abolitionnistes comme ça qu'il a pu justifier il fallait nous aider à nous sortir du proxénétisme. C'était son argumentaire quand même grand public. Il n'allait pas dire qu'il voulait passer les trottoirs au Karcher, hein. C'était pas politiquement correct. Mais en plus, elles ont une vision finalement qui est complètement fausse. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un certain nombre de filles ont envie de faire un autre métier. Et bien évidemment, comme dans toute activité, si vous proposez à quelqu'un, vous allez voir n'importe qui, et vous dites, bah voilà, tiens, moi je te propose un job où tu seras mieux payé et où tu t'éclateras plus. Est-ce qu'elle va dire non?
Oui.
Bah, tout le monde va dire oui. Donc effectivement, elles abordent comme ça. Alors en plus, alors le problème quand même qu'on a, c'est que finalement, elles leur proposent des stages de couture ou des formations de cuisinière. Hein, ah. Et pour être payé, évidemment, genre RMI ou un peu plus, enfin bon, en tout cas, appelle le SMIC, quoi. Donc, forcément, elle continue à tapiner derrière, évidemment.
Ouais, hein.
Et puis, alors, ça leur donne une vision quand même relativement faussée, c'est-à-dire que les quelques filles qui auraient vraiment envie de faire autre chose, bah, qui vont les voir, bah, moi, je ne vais jamais les voir, ces associations-là. Je suis bien dans mon métier, dans mon activité, j'ai pas de souci avec ça. Je ne vais pas avoir un psychologue. C'est un peu comme les PD dans les années 50-60 qui n'étaient pas bien dans leur basket parce qu'ils avaient du mal à assumer leur homosexualité, qui allaient voir des psychologues pour, entre guillemets, se faire hétéroïser. forcément, les psychologues à l'époque disaient bah, forcément, on ne peut pas être heureux en étant PD, donc on ne peut pas être heureux en étant pute.
C'est et on ne peut pas être ça. Heureux en étant trans parce que.
Bah, alors là, encore moins. Forcément,
alors, si il y a eu un problème dans l'éducation, il y a eu un souci parce que machin, tu vois.
Bah, c'est comme. C'est ça. Donc, si on est pute, c'est que forcément, on a été violé quand on est en enfance, ou je suis, ou cela. Enfin, etc. Enfin, je veux dire, c'est du n'importe quoi. Et c'est quand même les championnes du n'importe quoi, oui, effectivement, ces assos. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on retrouve un petit peu toutes nos positions sur notre site internet.
L'équipe.org.
avec 3 W devant.
Je fais l'hôtesse.
Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que n'hésitez pas à éventuellement m'envoyer un mail à contact@lesputes.org si vous souhaitez que je vous envoie régulièrement nos bulletins d'information et les événements, ce qu'on prépare, les actions qu'on fait, etc. Puis moi, ça me fait plaisir à chaque fois de recevoir des mails de soutien, donc voilà. On a l'impression d'être un peu moins seul aussi. Voilà.
Mais non, on est là.
Et que le débat progresse.
On est là.
Non, mais c'est surtout que le débat progresse et que les gens, et que tout le monde finalement commence à prendre conscience de la réalité et de ce qui se passe.
Et d'avoir aussi notre version des choses et pas avoir forcément.
Qu'une version.
Voilà. Et de,
biaisé bon, d'ailleurs.
C'est pour ça d'ailleurs que tu as invité.
Bah merci en tout cas pour cette
invitation. Bah non, c'est moi qui te remercie. Tu viens de Paris et tout, c'est pour ça que je t'avais sous la main, donc je t'ai gardé. J'espère que tu reviendras faire une émission.
Et bah avec plaisir.
On se reverra très très vite. Merci Sébastien.
Ah, merci Alexia, merci Nikita.
Merci Nikita, à très bientôt.
Puis merci à Stéphanie.
Oui, à la technique depuis le temps. La pauvre, on la remercie jamais, c'est vrai. Au revoir, à dans 15 jours.
Je jure, je ferai plus idiote. Je veux passer la nuit au poste, s'il vous plaît. Jetez-moi.